Bonjour, et bien voilà, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Alain, l'un des responsables de Radio BXL, une station qui émettait à Bruxelles au début des années 80. Alors bonjour Alain, et première question classique pour ce genre d'interview, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce que c'était Radio BXL ?
Bonjour Yves, bien Radio BXL, c'est un peu comme d'autres radios, d'après ce que tu m'as dit en plus, qui sont nées, c'était une parmi les radios qui sont nées de Radio Iris à l'origine, qui à un moment donné a disparu au profit de Radio SIS d'un côté, et nous de l'autre côté, Radio BXL. Voilà.
Alors, justement, parlant de Radio Iris, on sait que votre radio avait, enfin, on ne le sait pas encore, mais je le dis, que votre radio avait pour objectif la défense de tout ce qui touchait de près ou de loin les francophones de Bruxelles. En quoi, justement, elle se différenciait de Radio Iris, qui était aussi proche de ce genre d'idée ?
Voilà, en fait, ça se différenciait pour, sous deux angles. C'est que c'était l'époque où il y avait encore des courants musicaux qui se disputaient les uns les autres, et donc derrière ça il y avait une philosophie, un rapport à l'auditeur que nous respections parce qu'on ne savait pas pourquoi on le mépriserait d'ailleurs, alors que d'autres avaient l'idée de faire une radio commerciale qu'ils assumaient, en assumant d'ailleurs l'idée que c'était une relation commerciale qu'ils envisageaient de développer avec ses auditeurs, ce qui n'était pas notre approche, nous qui étions à la fois plus naïfs et plus directs dans notre relation à l'auditeur.
Donc on peut dire que votre radio se démarquait, on va dire, de Radio Iris par son côté moins commercial.
Il y a ça, et alors il y a un autre aspect, c'est que effectivement dans l'histoire de Radio Iris, mais ce n'est pas à moi de vous raconter son histoire parce que je n'y avais pas une position très particulière. C'est sur fond propre qu'on a démarré de mon côté avec mon beau-frère et un ami Yves et Philippe de Crenem. Donc ça a démarré sur fond propre, comme je dis, avec nos disques, nos platines de l'époque, un émetteur qu'on a dû acheter, etc. Quand même avec un petit soutien des communes. Pourquoi ? D'une commune, simplement parce qu'elle nous a accueillis et qu'elle a mis des locaux à notre disposition. Mais par rapport à Radio Iris, je dirais que nous étions peut-être un peu moins connectés à l'institutionnel.
Mais vous étiez malgré tout dans une défense de la francophonie, comme était Iris, Iris était tout de même proche du FDF.
Je dirais que je serais plus nuancé. Je dirais que c'était évident qu'on était proche, mais si vous vous rappelez à l'époque, il y avait des courants à Bruxelles. Il y avait le mouvement Bruxelles libre européen. Il y avait plusieurs courants qui existaient, avec certaines critiques vis-à-vis de ce mouvement, puisqu'on disait qu'on voulait en faire un district où finalement les Bruxellois n'auraient pas eu plus à dire. Nous, on s'est dit, ben voilà, on est pour Bruxelles sans rejet de personne, dans une vision ouverte aux autres cultures, à tous les courants d'idées, pas de problème, mais je dirais plus nettement francophone, sans être dépendant de quelque chose, et peut-être plus dans une logique, je vais pas dire autonomiste au sens que vous mettriez ce mot pour les Basques ou nos amis Corses, mais quand même il y avait l'idée de se dire que Bruxelles pourrait très bien jouer sa propre carte et faire quelque chose elle-même et trouver ses solutions elle-même.
Quel était le retour que vous aviez des auditeurs par rapport à vos émissions ?
Alors ça, c'était intéressant, parce que chacun s'est retrouvé un peu par hasard. Il y avait une ventilation par compétences supposées ou accaparées par les uns et les autres. Moi, par exemple, je faisais l'émission du matin qui s'appelait, je me demande si c'est pas le percolateur fou, quelque chose comme ça. Et en fait, une personne avec qui je n'avais aucune affinité m'a un jour dit « Ah, cette émission, c'est formidable », etc. Et je me suis dit « Comment est-ce que je peux être apprécié par lui ?» Et c'était très drôle parce que ça a cassé certains préjugés. Par ailleurs, il y avait des émissions extrêmement populaires ou des émissions très particulières, comme une émission passe-muraille pour les personnes qui étaient prisonnières. Et ça, c'était bon, on a accepté l'idée sans jamais d'ailleurs regarder ce qui se passait dans cette émission, mais ça se passait très bien. On accueillait comme ça des personnes avec leur projet clé sur porte. On avait une émission qui s'appelait Vertige, qui était faite par le mouvement gay Regard Pluriel. Il y avait quand même des émissions alors orientées New Wave, pour revenir à la question des courants musicaux, rock français, rock et un peu d'alternative, tout ce qu'on trouvait un peu original, on le prenait, et des émissions bruxelloises le dimanche avec les disques à la demande.
Et quelle était un peu la zone de couverture de votre radio? Vous passiez sur quelle commune de Bruxelles?
Alors ça, cher monsieur, c'était un petit peu les questions de la météo à Bruxelles. Je ne vais pas dire que ça dépendait du vent, mais on couvrait quand même quelques communes, puisque, je ne vais pas dire que la personne dont je parlais, où elle habitait, mais enfin, en tout cas, on allait jusqu'à Haute-Saint-Genèse, à la limite de Waterloo d'un côté. On était localisé à Woluwe-Saint-Lambert. Et manifestement, on émettait en tout cas sur Etterbeek et sans doute le nord de Bruxelles, puisqu'on avait quelques personnes du nord de Bruxelles. Donc, on avait à l'époque, ce n'était pas encore des distributions tout à fait officielles des longueurs d'onde, mais bon, on jouait un peu des coudes en disant « ouais, on a droit à notre place » et puis on voyait si on nous la donnait.
Est-ce que vous étiez proche d'une des deux fédérations, qui était l'Association pour la libération des ondes, qui était, on le rappelle, la fédération qui regroupait des radios d'expression hostiles à la publicité, et de l'autre côté, il y avait le GRIB, le groupement des radios indépendantes de Belgique, qui, lui, était dans une vision de la radio libre entreprise. Vous vous situiez où par rapport à ça?
Je peux vous dire que d'abord, j'étais, pendant cette période-là, j'étais au chômage suite à un accident de voiture, d'ailleurs, un double accident que j'ai eu quelques mois avant et pour lequel j'avais eu un choc émotionnel après, qui faisait que j'étais quand même hors circuit et que j'ai moi-même proposé d'arrêter mon activité pour justement démarrer dans cette radio locale, et c'est ce que j'ai fait. On ne savait pas du tout où ça nous mènerait. On était un peu naïfs quand même sur le sujet, notamment en matière commerciale. Comme je vous dis, on avait financé ça nous-mêmes et progressivement, on avait bien compris qu'on n'était pas tout à fait hostile à avoir des relations avec le comité de commerçants qui faisait une fête par-ci, par-là, mais qu'en même temps, on s'était séparé quand même du projet de Radio SIS, parce que nous ne voulions pas avoir un projet strictement commercial qui donnait l'impression qu'on allait du jour au lendemain nous expliquer ce qu'on devait faire et devenir salarié de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ça, c'était très bizarre, cette affaire. Et donc, par contre, l'ALO, avec son côté très militant, nous faisait tout aussi peur, parce qu'on avait tout à coup l'impression qu'on devait s'aligner sur un schéma idéologique qui nous échappait un peu, parce que là, c'était quand même orienté plutôt lutte sociale. Je dirais peut-être une philosophie de fédéralisme de quartier, ou en tout cas de quartier et d'action locale. En tout cas, nous n'avions pas une conscience politique assez développée que pour commencer à rentrer dans ce schéma-là.
Et justement, comment est-ce que vous avez vécu l'arrivée de la publicité commerciale sur les ondes? Quel impact ça a eu sur la manière de travailler des animateurs, par exemple? Est-ce qu'ils avaient déjà diffusé de la publicité, vos animateurs, ou ça a été une découverte pour eux ?
Chez nous, ce n'est pas arrivé. La radio s'est arrêtée avant. D'accord. Donc nous avons disparu dans des circonstances un peu particulières, sur lesquelles vous pourrez revenir si vous le souhaitez sans problème. Comme je vous dis, ça s'est arrêté à des activités, des fêtes commerciales. Un jour, nous avons été quand même, toujours aussi naïvement, et c'est très drôle d'ailleurs, on n'a plus vu notre grille horaire dans un journal important de la capitale. Et on s'est dit, quoi, nous ne sommes plus là? Et alors j'ai été très naïvement à la rédaction et j'ai dit, comment se fait-il que Radio BXL n'est plus dans les grilles de programme? Et ça, c'était justement parce qu'on nous avait évacués et qu'on ne rentrait dans aucun des schémas commerciaux.
D'accord. Comment avez-vous vécu ce qu'on a appelé la guerre des ondes? Donc, ça commençait déjà un peu à l'époque avec les radios qui jouaient justement des coudes par rapport à la puissance. Est-ce que vous en avez été victime aussi?
Mais comme je vous disais, en fait, on a été à une ou deux réunions de l'ALO pour j'ai revu notre dossier de candidature. Il y avait là, j'ai vu une réponse d'Hermann de Croix, je crois, qui était là-dedans, M. Van Germay, qui était impliqué un peu là-dedans.
Le conseil des radios locales.
Donc. Oui, ça devait être le. Oui, voilà, vous y connaissez mieux que moi. Avec le temps, on vieillit quand même un peu. Quand on allait à ces réunions, moi, je me rappelais qu'on devait essayer de voir avec qui on serait et qu'on était vraiment très dubitatif. parce que c'était quand même un peu la guerre, je veux dire. C'est-à-dire que c'était deux philosophies très opposées, et sans doute que les radios commerciales ou publiques, mais ayant déjà un portefeuille comme de publicité, devaient voir arriver des nouveaux commerciaux comme sans doute quelque chose de pas nécessairement souhaitable. Et alors les opposants, pour des raisons idéologiques, considérant que la démarche était citoyenne et devait reposer sur des financements publics, et donc échapper à la publicité. Comme vous le savez, on n'est plus tout à fait là aujourd'hui.
Non, mais je parlais principalement, quand je parlais de la guerre des ondes, c'était plutôt les brouillages entre radios. Est-ce que vous avez subi ce genre de choses?
Oui, et là, et je le dis, je me rappelle, peut-être qu'on fait une petite fixette là-dessus, mais
Vous pouvez citer des noms,
il y a prescription. Non, mais il y avait déjà la question des chaînes aussi néerlandophones, parce qu'elles-mêmes, elles devaient soit décréter quelle était leur couverture de Bruxelles, et nous, on devait être certainement des gens qui marchaient un peu sur leur plate-bande en regardant, je dirais, pragmatiquement ce qui était disponible et en essayant de se caser dans quelque chose qui aurait pu parler aux gens. Nous, je crois qu'on était 102.4, canal 24 ou un truc, ou 54, quelque chose comme ça. Je ne sais même pas ce que voulait dire ce canal 54, mais mon beau-frère m'a dit qu'il paraît que ça faisait très bien à l'époque de mettre canal 54, voilà.
Est-ce que vous aviez des relations avec d'autres radios locales et quelles étaient-elles? Vous connaissiez un peu les autres gens?
Oui, en fait, on connaissait un petit peu les autres radios, c'est-à-dire qu'on se piquait les animateurs bien gentiment, mais nous, on n'allait pas vraiment les chercher, mais de temps en temps, enfin, je ne dis pas que les autres, c'était le cas, mais de temps en temps, les uns se sentaient mal à l'aise dans une radio et disaient, ouais, on vient voir chez vous, parce que, et alors nous, on leur disait, bah, qu'est-ce que vous aimez comme musique, montrez-nous un peu ce que vous feriez, on testait, puis on disait, ouais, c'est bon, et en fait, ça n'allait pas toujours beaucoup plus loin, hein. On avait comme ça un couple, si je puis dire, enfin d'amis, Zip et Deep, qui s'occupaient de la New Wave, et ils étaient... Je sais que je devais régulièrement les défendre pour des questions de courants musicaux. Par contre, entre les radios, il y avait quand même derrière l'idée de la zone de couverture et l'idée que quand on était... Tout à coup, quelqu'un se mettait à nous couvrir, et ben, on se demandait pourquoi, on se demandait s'il fallait acheter un nouvel émetteur, etc.